Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, le séisme politique en Bolivie. Le pays sud-américain plonge dans l'incertitude après le départ du président Evo Morales, vaincu par la contestation populaire. Et des événements scrutés de près par l'opposition au Venezuela, nous le verrons. Nous reviendrons aussi sur l'Espagne au lendemain d'élections qui, au lieu de simplifier les choses, compliquent l'échiquier politique et compromettent la formation d'un gouvernement. Dans ce journal également, l'Irak où la situation reste délétère. Les manifestants persévèrent, mais la répression se durcit. Nous donnons la parole ce soir à Monseigneur Sleiman, l'archevêque latin de Bagdad. Et puis direction la Turquie où les autorités ont commencé à expulser les djihadistes étrangers vers leur pays d'origine, ainsi qu'elle l'avait promis.
Le journal. Manuela Afigi.
Bonsoir à tous. L'actualité internationale reste donc marquée par la Bolivie qui se retrouve ce lundi sans président, car Evo Morales, poussé vers la sortie par 3 semaines de manifestations, lâché par l'armée et la police, a donc démissionné hier, entraînant dans son sillage son vice-président ainsi que la présidente et le vice-président du Sénat et le président de la Chambre des députés. Morales, qui dirigeait le pays depuis 13 ans, se dit victime d'une machination, d'un coup d'État, une accusation reprise par tous les leaders de la gauche latino-américaine, au premier rang desquels Nicolas Maduro, le président du Venezuela, fidèle allié de Morales. L'opposition, elle, se réjouit de la chute du président bolivien car elle espère que cette démission va pousser les Vénézuéliens à ressortir dans les rues pour réclamer le départ cette fois de Nicolas Maduro. À Caracas, Benjamin Delisle.
C'est un coup dur pour Nicolas Maduro. Après le départ d'Evo Morales, le président vénézuélien perd l'un de ses principaux alliés en Amérique latine. Il condamne catégoriquement ce qu'il considère comme un coup d'État contre celui qu'il estime être, je cite, un frère président. Pour les autorités vénézuéliennes, l'Organisation des États américains a donné un coup de poignard dans le dos d'Evo Morales avec ce rapport faisant état de fraude lors du scrutin présidentiel du 20 octobre en Bolivie. Pour l'opposition, au contraire, le départ d'Evo Morales ne pouvait pas mieux tomber. Pour Juan Guaido, cette démission est le signe, je cite, d'un ouragan démocratique en Amérique latine. Il invite tous les Vénézuéliens à le rejoindre dans la rue le 16 novembre prochain afin d'imiter les Boliviens et de pousser Nicolas Maduro vers la sortie. Jusqu'à présent, la mobilisation pour cette manifestation prévue depuis plus d'un mois s'annonçait décevante. Mais il est très incertain que ce qu'il se passe en Bolivie suffise à remotiver les Vénézuéliens à investir les rues. Après des mois de manifestations sans résultat, rares sont ceux qui croient encore l'opposition capable de renverser le gouvernement. Caracas, Benjamin Delisle pour Radio Vatican.
Et puis réaction des évêques boliviens qui affirment eux qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Dans un communiqué, la conférence épiscopale dit accompagner le processus de transition en demandant 2 choses, que celui-ci advienne légalement et en conformité avec la Constitution. Au Chili voisin, le gouvernement lui aussi en butte à un mouvement de contestation à lâcher du lest. Il accepte de réviser la Constitution, comme le réclament depuis des semaines les manifestants. Ces derniers jours ont été marqués par des troubles en marge de défilés de manifestants, justement. Des personnes cagoulées ont pénétré dans une église de la capitale Santiago avant de la saccager et de briser plusieurs statues dans la rue. Les évêques se disent attristés par la profanation des lieux de culte. Paris perdu pour le socialiste espagnol Pedro Sanchez. Avec les 4e élections législatives en 4 ans, le premier ministre espagnol espérait hier enfin obtenir une majorité. Peine perdue, ses difficultés se sont aggravées au contraire. Son parti reste la première force du Parlement mais perd 3 sièges, derrière lui le Parti populaire. Et puis vient le parti d'extrême droite, Vox, qui enregistre une notable percée. À noter également la montée des partis indépendantistes et régionalistes. Alors pourquoi est-il si difficile pour Pedro Sanchez d'obtenir une majorité? La réponse d'Hubert Pérez, spécialiste de l'Allemagne, professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier.
Il y a une fragmentation de l'offre politique. À partir du moment où il y a une fragmentation de l'offre politique, évidemment, les choix ouverts aux électeurs sont beaucoup plus importants. Il y a parfois, et c'est ce qui est arrivé à Ciudadanos, une difficulté de positionnement de ces partis. Quand ces partis sont positionnés de manière extrêmement floue, finalement que l'on attend d'eux qu'ils ne jouent pas le jeu traditionnel, ben il leur est difficile de définir une stratégie et quand ils se trompent, quand ils décident d'aller trop directement d'un côté, bien ils sont abandonnés par une partie de leurs électeurs. Ça rend très difficile la formation d'une majorité. Le mode de scrutin espagnol transforme beaucoup moins facilement qu'en France une minorité de voix en majorité de sièges. Parce qu'on a un système de représentation proportionnelle qui est corrigé, qui est un peu amenuisé par le fait que l'on vote dans le cadre de petites circonscriptions qui sont les provinces. Mais tout de même, il est beaucoup plus difficile en Espagne de passer d'une minorité de voix à une majorité de sièges. Et évidemment, ça rend l'Espagne beaucoup moins facilement gouvernable que d'autres pays qui connaissent une fragmentation partisane semblable.
Hubert Pérez, spécialiste de l'Espagne et non pas de l'Allemagne, interrogé par Marine Henriot. La Grèce déroule le tapis rouge pour le président chinois. Xi Jinping a entamé une visite de 3 jours dans le pays pour élargir une collaboration économique déjà fructueuse avec Athènes. La Grèce, demandeuse d'investissements étrangers, met les petits plats dans les grands pour son illustre visiteur. Et des accords de coopération dans les domaines de l'éducation, de la marine et de l'énergie doivent être signés. L'Irak, toujours plongé dans la tourmente. Depuis le 1er octobre, début du mouvement de contestation, 319 personnes ont été tuées et les blessés se comptent par milliers. Aujourd'hui, les États-Unis ont réclamé la fin des violences et appelé les autorités irakiennes à organiser des élections anticipées. De leur côté, les manifestants réclament une refonte du système politique et un renouvellement complet de la classe dirigeante, inchangée depuis la chute du dictateur Saddam Hussein en 2003. Ils conspuent également l'Iran, accusé d'être l'architecte d'un système rongé par le clientélisme et la corruption. Monseigneur Jean-Benjamin Sleiman est l'archevêque latin de Bagdad depuis l'année 2000. Pour lui, la situation actuelle est le fruit de cette histoire douloureuse. Les blessures sont encore ouvertes et les divisions trop nombreuses. On l'écoute.
Il faut aider vraiment ce pays qui a été sauvé de la dictature à entrer dans la modernité en redécouvrant la personne, son importance, les relations personnelles et le sens de l'État. L'État comme institution qui est vraiment indispensable à toute société humaine. Mon rêve, c'est que vraiment, on arrive un jour à être plus sérieux, à aider les Irakiens d'abord à retrouver la citoyenneté, c'est-à-dire que l'Irakien est égal à l'autre Irakien, il a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et j'insiste sur les devoirs, parce qu'on parle des droits, mais on ne parle pas toujours des devoirs. Et ainsi de suite. Vous savez, on n'a jamais pensé les vraies blessures de la guerre. Il y a beaucoup de problèmes psychologiques qui sont nés des guerres successives. Il y a aussi beaucoup de problèmes sociaux, les enfants orphelins, les enfants abandonnés, surtout les femmes veuves, et ainsi de suite. L'Irak a beaucoup de problèmes, et je crois qu'il faut lui donner le temps d'être stable politiquement pour pouvoir un peu aborder ces problèmes.
Des propos recueillis par Adélaïde Patrignani. Et puis sachez qu'aujourd'hui, le cardinal Sacco, le patriarche de Babylone des Chaldéens, a appelé les fidèles de son église à 3 jours de jeûne du 11 au 13 novembre pour le retour de la stabilité en Irak. Une terrible nouvelle qui nous parvient de Syrie. Le père Joseph Rana Ibrahim, prêtre arménien catholique à Kamlichi dans le nord-est, a été assassiné sur la route de Deir ez-Zor avec son propre père, lui aussi prêtre. Ils ont été pris dans une embuscade tendue par les djihadistes de l'État islamique. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de demain matin. La Turquie a donc mis ses menaces à exécution en expulsant ou en renvoyant aujourd'hui dans leur pays d'origine des membres étrangers de l'État islamique. Justement, 11 Français arrêtés en Syrie seront notamment concernés dans les prochains jours. À Istanbul, les précisions d'Anne Andlauer.
Selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur, la Turquie a commencé par expulser, il n'a pas précisé vers où, un citoyen américain identifié comme combattant terroriste étranger. La confusion règne cependant sur son sort. L'agence de presse turque DHA affirmant que cet Américain a été expulsé via un poste frontière avec la Grèce. Les douanes grecques lui auraient refusé l'entrée, rapporte encore l'agence, qui publie une vidéo de l'homme coincé dans le No Man's Land entre les deux pays. Les autorités turques n'ont fait aucun commentaire sur ces allégations. Un Danois a en revanche été renvoyé par avion vers Copenhague, tandis qu'un Allemand attendait de subir le même sort. 7 autres Allemands doivent par ailleurs être renvoyés jeudi. Tous étaient gardés jusqu'ici dans un des centres de renvoi où les autorités turques détiennent les étrangers interdits de séjour. Ankara annonce aussi le renvoi prochain d'étrangers arrêtés en Syrie. Cela concernerait pour l'instant 2 Irlandais, 2 Allemands et 11 Français. Ces cas sont plus problématiques car la plupart des États européens, dont la France, refusent de rapatrier leurs citoyens qui ont rejoint les rangs de Daesh en Syrie. Contactés par téléphone, des responsables turcs ont refusé de s'exprimer sur les renvois en cours, précisant simplement que ces procédures allaient se poursuivre, je cite, « avec détermination ». À Istanbul, Anne Andlauer pour Radio Vatican.
Et puis enfin, plusieurs nominations ici au Vatican au Conseil pontifical pour la culture qui accueille de nouveaux membres choisis par le pape François. Parmi eux, 4 cardinaux dont Luis Ladaria Ferrer, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et Joseph de Kézel, archevêque de Malines-Bruxelles. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain matin à 8h30 pour un nouveau point sur l'actualité vaticane et internationale. Très belle soirée à tous.